will begin in 1 minute.
Nous allons commencer dans 1 minute.
Okay, let's go ahead and begin. If you could.
Bonjour, je vous prie de bien vouloir prendre place. Nous allons bientôt commencer notre séance. Je souhaite vous donner la bienvenue à cette séance sur la mise en œuvre du RDAP. Je suis Cyrus Namati et j'appartiens à la division des domaines mondiaux de l'ICANN. Je suis ici avec Francisco Arias à ma droite, qui est le responsable des services techniques, des opérations techniques, et David Conrad, qui est à droite de Francisco, et notre directeur de la technologie. Notre séance d'aujourd'hui concerne ou vise à ce que l'on puisse établir un dialogue ouvert sur la mise en œuvre du RDAP. Nous voudrions partager avec vous ce que nous avons fait du point de vue du personnel de l'ICANN, quelles sont les obligations qui sont imposées dans les contrats avec les parties prenantes et quelles sont les mesures qui vont être adoptées. Francisco va faire un aperçu de l'origine de ce travail, vers où il va. Et j'espère que nous pourrons avoir un dialogue ouvert. Les microphones sont disponibles si vous voulez faire des interventions. Et nous voulons donc donner un panorama clair de cette mise en œuvre. Je vous demanderai de poser vos questions à la fin de la présentation de Francisco. Si vous avez des questions, je vous prie de lever la main afin que nos collègues puissent vous faire parvenir un micro. Je vous demande aussi de vous dire votre nom avant de poser votre question. Vous avez toujours une question, monsieur. Très bien. Vous entraînez à lever la main. Très bien. Je vais donc donner la parole à Francisco qui va commencer la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyrus. Bonjour à tous. Francisco prend la parole. Vous voyez un petit peu les points que nous allons aborder aujourd'hui. Ensuite, nous allons rentrer dans le détail des trois principaux sujets qui nous concernent. Je vais essayer donc d'attribuer une quantité de temps à chacun de ces sujets et ensuite ouvrir le micro à des questions. Il y a un micro qui sera distribué, qui vous sera donné si vous le souhaitez. Très bien. Bon. Pourquoi sommes-nous ici ? En 2011, le SSAC a élaboré une recommandation au conseil d'administration afin que le WHOIS soit examiné et éventuellement remplacé. Cette recommandation a été adoptée et un travail a commencé au sein de la communauté de l'IETF en 2012, un travail qui a fini l'année dernière, il y a un an, plus ou moins. Des dispositions contractuelles ont été adoptées pour les GTLD hérités dans les accords de registre, les contrats de registre de 2011. Il y a des dispositions concernant ce type de RDDP. Nous devons avoir donc ce que l'on appelle un profil RDAP. Ce profil a été mis à jour à partir des commentaires que nous avons reçus et une deuxième version a été publiée qui est toujours en cours de publication, de consultation publique afin de recevoir vos commentaires. Très brièvement, si vous ne le savez pas, le RDAP veut dire protocole d'accès aux données d'enregistrement et il donne les bénéfices souvent, les bénéfices suivants. Il permet donc de faciliter les données dans certains cas. Il y a donc des requêtes qui sont envoyées et des informations qui sont disponibles pour répondre à ces requêtes de manière autorisée ou pas. Et cela permet aussi de rediriger ou avoir des mécanismes de référence. Et bien sûr, ce protocole se base sur le protocole HTTP que l'on connaît très bien. Et cela nous permet de mettre à profit l'expertise dont nous disposons par rapport à ce protocole. Finalement, il y a d'autres bénéfices, à savoir qu'il y ait un soutien d'internationalisation pour les données d'enregistrement et bien sûr le fait d'offrir un accès différencié. Pour expliquer un petit peu quel est le profil RDAP plus en détail, ce profil RDAP est un document qui est à mi-chemin entre un document technique et un document juridique où l'on retrouve un ensemble de dispositions juridiques et techniques concernant les registres et les bureaux d'enregistrement. Voilà le document qui a été publié pour consultation publique actuellement qui sera utilisé pour mettre en œuvre le RDAP. Bien entendu, c'est un document qui est soumis à consultation publique encore. Rentrons donc dans le détail maintenant. Tout d'abord, l'accès différencié. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une fonctionnalité qui montre différents sous-ensembles de données en fonction de la personne qui fait la requête. Par exemple, nous avons 3 GTLD. Il n'y en a que 3 qui ont cette fonctionnalité dans leur contrat. 4 DLA name. Et ce qu'ils ont en commun, c'est que, par exemple, si quelqu'un envoie une requête et que c'est un utilisateur anonyme qui n'a pas été autorisé, nous lui fournissons un sous-ensemble de données. Ce serait l'équivalent de ce que nous appelons le WHOIS résumé en ce moment. Donc vous voyez un certain nombre de données, à savoir le nom du domaine, le statut et la date d'expiration. Mais vous ne accédez pas aux données de contact. Le contrat pour ces GTLD a un autre niveau d'accès. Pour le cas des noms, par exemple, il y a quatre niveaux d'accès. Deux niveaux pour les utilisateurs autorisés qui permettent un accès complet au reste des données. Je vous ai dit qu'il y a trois GTLD qui ont ce type de accès différencié dans leurs dispositions contractuelles. Finalement, il n'y a pas une politique qui couvre actuellement cet accès différencié dans le RDAP, et c'est le terme que l'on utilise dans le RDDS, pardon. Éventuellement, donc, il y aura une modification de cela. Pendant la consultation publique, nous avons reçu des commentaires et je vais vous donner des exemples des commentaires qu'on a reçus. Par exemple, on nous demande de mettre en place un accès différencié ou d'autres commentaires plus prudents qui disent qu'il faut que tous les GTLD doivent le mettre en œuvre, mais seulement dans le cadre de certaines politiques ou certaines dispositions contractuelles. Il y a d'autres commentaires qui disent que c'est positif de mettre en place, mais qu'il ne faut pas établir un accès différencié, à moins qu'il y ait une raison particulière établie dans la disposition contractuelle. En ce qui concerne le processus de développement de politique sur les services annuaires de données d'enregistrement GTLD, on essaye de trouver des services annuaires de nouvelle génération. Et comme je vous l'ai dit avant, l'idée c'était de définir quelles sont les données, par exemple, qui doivent être autorisées. Malheureusement, ce travail ne fait que commencer. Il y a un groupe de travail qui se penche sur ce travail. Et vu la complexité de ce sujet, il se peut que ça prenne des années. Nos collègues du département des politiques de l'ICANN nous parlaient du délai moyen pour une politique de développement, d'un processus de développement de politique, et ce délai est de 2 ans en général. Ce processus pourrait prendre un peu plus de temps. Hier, on a entendu des statistiques par rapport au nombre de participants. On avait plus de 100 et quelques participants, plus de 100 observateurs. Donc on sait que ça va prendre du temps, que c'est un processus qui sera long. Actuellement, les registres ont la possibilité de demander un changement dans leur service RDDS pour remettre en place un service différencié conformément à leur politique. Et diapo suivante, avant de vous donner la parole, étant donné qu'il n'y a pas de politique ou de disposition contractuelle concernant l'accès différencié dans le RDDS, nous proposons de mettre en œuvre le RDDS sans demander un accès différencié dans tous les GTLD. Nous avons dans cette proposition la possibilité d'accorder donc cette possibilité à ceux qui le souhaitent. Donc, ce n'est pas une exigence pour tous, mais pour ceux qui peuvent inclure cette disposition dans leur contrat. Je vais maintenant vous donner la parole pour des questions. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez peut-être passer au milieu de la salle pour poser votre question. Robin Skew, groupe de bureau d'enregistrement. Je voudrais parler de la RDDAP et je sais qu'il faut pas, il n'est pas nécessaire par contrat. Le contrat exige la mise en place de RDDAP et les standards de l'IETF. Le contrat n'exige pas au registre de mettre en place ce que l'ICANN appelle le profil RDAP. Malheureusement, l'ICANN a pris la décision de ne pas suivre le processus standard de l'IETF. Il n'y a pas d'obligation pour les contrats de suivre cela. Nous devons uniquement mettre en place RDAP. Si c'est obligatoire par contrat, cela ne figure pas là-bas, à moins que vous envisagiez d'amender le contrat pour inclure ce profil, cela ne serait pas obligatoire. Alors, que doivent faire les registres pour mettre en œuvre RDAP? Je serais prudent avant de parler d'un déploiement obligatoire. Merci. Merci, Rubens. Cyrus prend la parole. Merci, Rubens. C'est une remarque très pertinente. Maintenant, Francisco prend la parole. Ce que nous faisons avec le profil, c'est que nous essayons de voir quelles sont les exigences qui existent déjà. Vous voyez donc que nous essayons de clarifier ce que nous voulons dire par RDAP en fonction de ce que dit votre contrat. Si le contrat dit que vous devez avoir certains champs obligatoires, c'est ça ce que l'on va mettre dans le profil. Ou par exemple, si vous ne devez pas avoir un accès différencié, nous le disons aussi, cette information donc est transmise, on reprend ces informations dans le RDAP. Et je pense que si vous voyez le profil, ce que fait le profil, c'est essayer de réunir les lignes directrices du contrat. Vous parlez de clarification. Un intervenant poursuit sa prise de parole. Vous voyez que nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation. Ce n'est pas écrit. Nous ne sommes pas d'accord avec cette évaluation. Si vous voulez une clarification, on pourrait vouloir une clarification. Et donc, c'est un échange qui a deux parties. Cyrus prend la parole. Je vais vous poser une question. Vous pensez que l'IETF va continuer à sortir des protocoles liés au RDAP? Et puis, les contrats vont être modifiés. Ce n'est pas très clair pour moi. Que pensez-vous qu'il faut faire du côté IETF? L'intervenant prend la parole. L'IETF publie des protocoles qui ne correspondent pas spécifiquement aux exigences du GTLD parce qu'ils n'ont pas pu proposer un protocole qui puisse être adopté par les CCTLD, par les GTLD, une structure qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Ils n'ont pas pu. Si l'ICANN envisage de faire appliquer le contrat en fonction de ce qui est proposé par l'IETF, l'ICANN doit proposer un autre standard, une autre norme, un autre protocole que l'on puisse utiliser pour les GTLD. Si vous allez utiliser si vous voulez faire appliquer ce qui figure dans les contrats. Et cela serait bienvenu, bien sûr. Cyrus prend la parole. Merci, Rubens. Jordan prend la parole. Francisco, est-ce que vous pouvez parler dans le micro, dit Cyrus? Bonjour. Vous savez qu'il y a un manque de politique pour l'accès différencié. Croyez-vous qu'il y a une politique qui demande un accès non différencié? Francisco prend la parole. Il y a des dispositions dans les contrats qui peuvent le dire. Et cela est clarifié, pour clarification, les trois télés que j'ai mentionnés ont dans leur contrat l'exigence d'un accès différencié. Jordan prend la parole. Je ne pense pas que ce qui figure dans trois contrats doit régir ce qui se passe dans tous les autres GTLD. C'est une question de pratique contractuelle, finalement. Francisco prend la parole. C'est un contrat. C'est à disposition d'un contrat. Jordan prend la parole. Donc, on pourrait changer les contrats et cela changerait la politique. Vous comprenez quelle est la situation ? Il n'est pas nécessaire de passer par un processus contractuel pour mettre en place cette différenciation d'accès. De manière individuelle, dit Francisco, il y a certains GTLD qui ont passé un certain processus. Par exemple, CAT, pendant que j'étais à l'EICAN, ils sont venus nous parler, ils nous ont dit « nous voudrions avoir un accès différencié » et donc nous avons entamé un processus d'amendement du contrat pour qu'ils puissent avoir un accès différencié. Jordan prend la parole. Y a-t-il une raison pour laquelle on ne pourrait pas utiliser un processus similaire pour changer et faire en sorte que cette pratique soit généralisée ? Il semble très inefficient, inefficace pour tous les registres de devoir passer par toutes ces étapes. Est-ce qu'on pourrait faire un changement en lot, si vous voulez, et sans devoir passer par des processus de politique ? Cyrus prend la parole. Est-ce que votre question concerne uniquement l'accès différencié ? Jordan reprend la parole. Oui. On dit qu'il n'y a pas une politique qui prévoit l'accès différencié. Et il semblerait qu'il s'agit uniquement d'un problème contractuel, si vous voulez. C'est pourquoi, si nous voulons changer les choses, il faut changer le contrat. Et ce serait le cas aussi pour le RDAP ou le profil RDAP. Et il faut à ce moment-là une politique pour pouvoir mettre en place ces changements. Cyrus prend la parole. C'est une perspective intéressante. Peut-être que nous pourrions y réfléchir. Notre position et en est une selon laquelle il faut avoir cette politique pour que ce soit mis en place. Jordan, on assume que donc il y a un statu quo, il y a une politique finalement, c'est celle selon laquelle il ne faut pas qu'il y ait un accès différencié. Il y a beaucoup de négations dans votre déclaration, je pense, dit Cyrus. Maximum Suber prend la parole. Deux éléments. Tout d'abord, une clarification. La clarification n'est pas dans la portée du contrat. Est-ce que cela peut être exigé, son application peut être exigée par la conformité contractuelle ? Deuxième élément, si j'ai bien compris, vous suggérez que les registres passent par un processus pour pouvoir mettre en place cet accès différencié. Est-ce que j'ai bien compris ? Je n'ai pas dit... Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit Cyrus. Shalom from VeriSign. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit par Rubens. Vous dites que le profil RDAP est un document de clarification sur ce qui est déjà exigé dans les contrats. C'est ça ? Francisco prend la parole. Je faisais une analogie. Ce profil regroupe les différentes fonctionnalités et les dispositions du contrat. Ces contrats peuvent ne rien dire par rapport à l'accès différencié. Mais si votre contrat ne dit rien par rapport à l'accès différencié, vous ne pouvez pas le mettre en place. Donc, dans le profil, on dit si vous n'avez pas cette disposition dans votre contrat, vous ne pouvez pas mettre en place un accès différencié. L'intervenant reprend la parole. Mon problème, c'est que l'on est un document qui exige la mise en place d'un profil qui n'a pas passé par un processus d'acceptation par la communauté. Et cela nous met dans une position où nous avons un ensemble d'exigences pour les DPP. Certains d'entre eux sont obligatoires, d'autres sont facultatifs. Et nous avons un document de profil qui clarifie et qui exige qu'il y ait un format spécifique. et qui implique de passer par un processus. Je vais vous donner un exemple spécifique. Hier, on parlait de Ruiz et je pense que le Ruiz IRT demande un certain profil. Si, par exemple, hier, nous avons parlé des bureaux d'enregistrement, les dates d'expiration des bureaux d'enregistrement et des registres, cela est un champ différent qui n'est pas renseigné par les registres aujourd'hui. Et il faudrait une extension d'IPP pour que l'on puisse créer cela. Et je ne comprends pas pourquoi ou comment dans la communauté nous avons discuté le besoin de afficher dans une réponse au Ruiz deux dates d'expiration différentes. C'est un peu confus. Voilà un exemple du type de spécificité qui peut surgir de ce type de profil. Il y a une zone un peu grise pour mettre en place les exigences qui existent dans le contrat. Et s'il faut amender donc les contrats, je pense qu'il y a une question d'interprétation. Francisco prend la parole juste pour clarifier la question de la date d'expiration des bureaux d'enregistrement, parce qu'il y a d'autres champs qu'il faut renseigner. C'est une exigence de la politique du Ruiz détaillée. L'intervenant reprend la parole. C'est difficile de s'y repérer parce que le Ruiz détaillé a un impact sur tous les registres et il faut en tenir compte.
Again. Rubinsky, qui prend la parole. Je voudrais suggérer une manière de procéder. Par exemple, si l'ICANN publie un profil opérationnel d'RDAP qui ne soit pas contraignant pour les registres qui souhaitent déployer le RDAP pour qu'ils puissent le suivre, l'ICANN pourrait en même temps mettre en place un système de suivi de ces profils qui constituerait un programme pilote que nous pourrions suivre ensemble pour voir si on a accès aux mêmes informations. On dirait on est d'accord avec ce que vous dites. Après cela, on pourrait peut-être se mettre d'accord au sujet des amendements au contrat qui comprendraient ces efforts que nous aurons faits ensemble. Ce serait probablement beaucoup plus acceptable pour nous que de recevoir ce diktat technique des amendements au contrat. Cela pourrait peut-être nous faire avancer sans que l'on ait à discuter tellement les dispositions contractuelles. Ce n'est qu'une suggestion. Francisco prend la parole. Merci, Rubens.
Jim Galvin, de Affiliates, prend la parole. Je voudrais faire deux remarques concernant la conversation que je viens d'entendre. D'une part, je tiens à dire que je soutiens ce qui a été proposé comme manière d'avancer, comme voie à suivre. Et j'écoute la discussion et je me dis, je pense qu'on soutient ce type de projet parce que des fois, il semblerait que vous voulez faire des progrès, c'est ce que vous dites, sans pour autant vouloir le faire. Dans cette discussion du RDAP et du Ruiz, on voit qu'il y a énormément d'activités et énormément de parties concernées et énormément de rapports qu'on oublie. Donc vous pouvez faire une déclaration comme celle que vous faites, disant que vous souhaitez mettre en œuvre le RDAP, et puis Joe vient, se rapproche du micro et vous fait voir qu'il y a d'autres implications pour le côté du RPP et du APP. Donc je pense que ma remarque ici est... Vous vous souviendrez sans doute que j'ai déjà pris la parole à Dublin au moment où vous avez présenté ce projet, lorsque vous avez commencé à parler du profil de RDAP et des composantes qui devraient l'intégrer. Je sentais déjà à l'époque que si nous comptons mettre en place le RDAP, on sait que ça va se faire, il n'y a aucun doute là-dessus. On ne sait pas quels seront les processus spécifiques, mais on sait que vous allez mettre en œuvre cela et on dirait que vous voulez profiter de ces activités et des informations que vous avez. Et donc, il faut voir comment profiter de l'accès autorisé, l'accès différencié. Donc à Dublin, vous avez proposé un projet sans pour autant penser à l'accès différencié. Vous venez nous voir maintenant, vous nous dites, on a reconsidéré la situation et il nous semble que ce qui serait correct serait de ne rien faire et vous expliquez pourquoi vous ne faites rien, parce qu'il y a plein d'autres processus en cours. Et c'est pourquoi je dis que je soutiens cela. Mais c'est sûr que vous n'allez pas me répondre en ce moment, mais il me semble que quelqu'un devrait prendre un peu de recul, peut-être que l'ICANN devrait le faire, pour considérer tout ce qui est en cours en ce moment. Il faut que l'on trouve un moyen de pouvoir intégrer toutes ces activités. J'avoue que des fois, je sens que ce n'est pas en rapport. C'est une partie de ce qui m'inquiète ici. On a tellement d'activités en cours. On a un groupe des RDS de nouvelle génération qui est le plus grand et qui prendra sans doute beaucoup d'années pour pouvoir être conclu et qu'il y aura beaucoup de discussions jusqu'à ce qu'on aura arrivé à la fin du processus. Donc il faut que l'on trouve une manière de pouvoir tout intégrer. J'espère que mon commentaire sera utile. Cyrus prend la parole. Merci Jim de faire ces remarques qui sont très utiles. Est-ce que, je vous demande une précision ici, vous parlez ici du problème de ne pas avoir l'accès différencié dans la première version du RDAP. C'était ça qui vous inquiétait? Jim Galvin prend la parole. Oui, c'est une supposition que j'ai assumée lorsque j'ai vu votre déclaration et c'est ça qui est intéressant ici. La différence entre ce que j'ai dit à Dublin et ce que je dis maintenant est qu'à Dublin, on aurait dit que vous allez présenter une proposition alors que vous n'aviez pas considéré d'autres aspects liés tels que l'aspect différencié. Vous n'aviez rien à dire là-dessus. Et donc, je soutiens votre déclaration actuelle parce que vous dites que vous avez reconsidéré la situation et que vous avez fait des choix tout en reconnaissant qu'il y a d'autres parties de la communauté impliquées à d'autres activités qui vont avoir besoin de cet accès différencié. Vous êtes dit, on va avancer avec ce qu'on peut avancer, on va attendre à voir ce que la communauté veut dans ce domaine. Et pour moi, c'est un message clair, c'est un choix conscient que vous faites. C'est pourquoi je soutiens votre déclaration, même si je reprends ce que j'ai dit à Dublin, et c'est le fait qu'il faut qu'on agisse dans le domaine de l'accès différencié. Mais c'est vrai qu'il faut entendre ce que la communauté veut. Cyrus prend la parole. Merci. Oui, c'est vrai que on s'est beaucoup débattu au sujet de l'accès différencié, qui est clairement une fonction que les opérateurs de communautés comme vous veulent. Donc, on va reconsidérer cela et j'espère qu'on pourra vous donner une réponse de ce que nous pourrons faire d'en avant. On optimisera sans doute nos travaux sur certains de ces efforts, mais comme Fadil a dit ce matin, il faut des fois prendre un peu de recul pour voir l'ensemble, pour voir la forêt et pas l'arbre. Au sein de l'ICANN, nous, les membres du personnel, on manque de certains pouvoirs. Et c'est ce que j'ai dit auprès du conseil de la GNSO hier. C'est le fait qu'on n'a pas le pouvoir de tout changer, de créer de nouvelles politiques. Vous ne voulez pas nous donner ce pouvoir et nous ne le considérons pas comme un pouvoir qui nous soit attribué. Donc dans les contrats, il y a des dispositions qui établissent des tâches de suivi, d'application ou des politiques qui ont été appliquées par le conseil d'administration. Mais nous, notre mission, c'est de suivre ces dispositions. On essaie d'apporter du sens à ces dispositions dans la mesure du possible, mais s'il était nécessaire d'apporter des modifications aux politiques adoptées ou à la rédaction des contrats telle qu'elle est, la manière d'apporter des modifications est à travers le processus ascendant, à travers le processus d'élaboration de politiques. Il faut s'adresser au conseil d'administration pour qu'il nous demande de le changer. Moi-même, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Le contrat a été adopté par le conseil d'administration en tant que politique consensuelle. Et c'est ça l'essence du travail que l'ICANN a à faire, qui n'est pas infini, vous voyez. Merci. Steve Metalitz prend la parole. Merci. Je viens de l'unité constitutive de la propriété intellectuelle. Nous avons déjà soumis un commentaire là-dessus et je vous remercie d'y avoir fait référence. Surtout en ce qui concerne l'accès différencié, nous soutenons vos travaux en cours et nous apprécions le chemin que vous suivez en ce moment. Il me semble que c'était clair depuis le début de ces activités de RDAP
qu'il faut qu'il y ait une différenciation dans l'accès. Et cela se correspond à ce que disait Cyrus. Ce n'est pas pareil du côté de la politique et du côté technique. Et nous, ce qui nous inquiétait au sujet du RDAP était qu'il s'agissait d'un protocole qui allait nous permettre d'avoir l'accès différencié, mais qui n'essayait pas d'établir une politique là-dessus. Et c'est ce que vous considérez en ce moment à travers le processus ascendant qui a lieu au sein du groupe chargé des activités de la nouvelle génération. Je sais qu'on vous a posé une question au sujet des politiques et des dispositions contractuelles pour définir de quoi il s'agissait. Je pense que c'est une question très compliquée. Et je me souviens qu'hier, lors de notre réunion, on a parlé du WIS détaillé et on se disait qu'il y avait des politiques et qu'il y avait des politiques consensuelles et que ce n'est pas pareil. On a ici la politique et une autre politique et une autre politique parce que l'ICANN a déjà des politiques sur l'accès différencié. Il s'agit de politiques dont la règle est de ne pas faire de différence entre la personne qui veut accéder. C'était un engagement de l'ICANN auprès du département de commerce en 2009 et c'est l'engagement que le conseil d'administration a affirmé et qui s'est engagé à appliquer pour comme réponse à l'équipe de révision du WIS il y a quelques années. Et en même temps, ils ont lancé un processus de RDDS du WIS pour mettre en œuvre une autre politique concernant l'accès différencié et cela a été mentionné à plusieurs reprises. Cela fait déjà des années qu'on a commencé à travailler sur les différents processus des registres et des bureaux d'enregistrement qui doivent pouvoir démontrer qu'ils sont capables de suivre une politique d'accès non différencié en vertu des différentes politiques qui leur sont appliquées, à moins qu'il y ait une exception, bien sûr. Donc c'est ça le statu quo à présent. C'est comme ça qu'on a travaillé ces dernières 15 années. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'analyser au sein du groupe chargé du RDS de la nouvelle génération. Je pense que ce sera un projet au long terme et je ne sais pas quel sera le résultat à la fin du processus, mais en tout cas, l'état actuel du travail concernant l'accès différencié, ou en tout cas ce que vous avez inclus dans le profil, est le travail du groupe de la propriété intellectuelle. Ça se conforme à ce que nous vous avons proposé. Concernant le profil RDAP, nos inquiétudes que l'on reprend d'ailleurs, qui ont déjà été exprimées auparavant, sont qu'il y a toujours un certain délai que ça nous prend de mettre en œuvre les politiques consensuelles, que je cite d'ailleurs entre guillemets. Le 7 février 2014, on a déjà exprimé nos inquiétudes concernant ces problèmes avec le WIS détaillé. Donc, le principe, à notre avis, serait qu'il faut permettre que les améliorations soient accomplies au plus tôt possible. Je vous remercie de cette possibilité de m'exprimer et on s'attend à avoir des réponses aux questions que nous avons posées dans nos commentaires concernant d'autres domaines du profil RDAP. Cyrus prend la parole. Merci, Steve. Jordan? Jordan Buchanan de Google. Je suis là pour parler pas tellement de l'accès différencié, mais de toute façon, il me semble qu'il faut que je dise que je ne suis pas d'accord avec Steve. Sinon, on a des préoccupations concernant cette révision du WIS. Il faudrait que l'on discute de l'accès différencié pour voir s'il faudrait apporter des modifications à la politique adoptée par l'ICANN. De toute façon, je voulais parler et reprendre ce que Rubens disait dans son intervention. Francisco, vous nous avez déjà dit que vous ne savez pas ou que vous ne prévoyez pas d'annuler les politiques actuelles d'ici peu. Et donc, les politiques actuelles du WIS. Et donc, on a différentes pratiques qui existent et qui, sans doute, existeront toujours pour le WIS. Et cela on va nous donner l'occasion d'avoir davantage d'expérience opérationnelle avant de devoir compliquer nos opérations avec de nouvelles pratiques qui n'existaient pas, comme par exemple celle de l'accès différencié. Donc, si vous disiez tout simplement que les registres doivent essayer RDAP, vous leur demandez de trouver le sens du profil RDAP, de voir comment cela fonctionne, on aura différents résultats. Il y aura sans doute certains qui trouveront que ça fonctionne, d'autres qui ne vont pas comprendre comment le faire fonctionner. Il va y avoir des personnes qui vont vouloir renvoyer ailleurs, mais on aura beaucoup
d'aspects à comprendre avant de pouvoir expliquer à la communauté comment le profil RDAP fonctionne, avant de remplacer cette politique RDDS, ce service d'annuaire qui existe. Et donc le profil RDAP pourrait être défini selon nos expériences opérationnelles. Et cela nous permettrait de voir si l'on veut vraiment mettre en œuvre une politique de ce type. Ça va peut-être faciliter nos travaux pour ne pas devoir modifier la mise en œuvre du RDAP à plusieurs reprises. Donc ça va nous permettre de faire une seule mise en œuvre. Et je pense parler ici au nom de Google. On s'est déjà exprimé là-dessus concernant la question des services d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation, mais je pense que ce type de politique ne va pas fonctionner. Cela fait une décennie qu'on essaie d'élaborer une politique relative aux WHOIS et on n'est arrivé nulle part. Mais une partie du problème, je pense, c'est qu'il nous manque l'expérience nécessaire pour pouvoir modifier le statu quo. Et donc, je pense que la communauté bénéficierait substantiellement d'une description du rôle du RDAP, parce qu'on a toujours le document 43 qui fonde nos efforts. Merci, Jordan D. Cyrus. Rubens Q prend la parole. Je vais reprendre les propos de Jordan. Ce que je n'apprécie pas du profil tel qu'il est en ce moment est que vous ne bénéficiez pas l'utilisation de l'internationalisation. Et le RDAP était censé intégrer l'internationalisation au service d'annuaire des données d'enregistrement. Je pense que cela est directement cruel parce que les développeurs ont mis tant d'années à créer un protocole qui puisse supporter les caractères internationaux comme mon nom de famille, comme le nom du PDG de l'ICANN, son prénom d'ailleurs, un tréma. Donc je ne pense pas que ce soit une contrainte du système. On pourrait peut-être mettre en œuvre une politique qui ne soit pas limitée dans ce sens. Si on faisait cela, on pourrait au moins intégrer l'internationalisation et les efforts qui ont été faits dans ce domaine. Francisco Arias prend la parole. Je ne me rappelle pas qu'il y ait ce type de limitation dans le profil, mais je vous remercierai de me montrer où vous trouvez ces limites. Chuck Gomez prend la parole. Il me semble qu'il serait nécessaire de partager ce que j'ai déjà discuté avec le groupe de travail du RDS, du conseil d'administration. On s'était dit qu'on allait avoir un PDP d'ici 3 mois. Ouais, à partir de quand, dit Cyrus, Chuck Gomes prend la parole. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas sérieux, bien sûr. Mais je veux préciser ce que Steve a dit et il pourra le confirmer lui-même. C'est le fait qu'on n'a pas de politique consensuelle contre l'accès différencié ou contre l'accès en couche. C'est une distinction que je voulais faire parce qu'il me semble qu'il est important de faire cette différence. Merci, Chuck. On vous verra d'ici 3 mois, dit Cyrus. Cyrus prend la parole. Je pense qu'on a un commentaire en ligne. C'est bien ça, Antonietta? Antonietta Mangianotti prend la parole. Oui, on a un commentaire d'un utilisateur de VeriSign qui dit, il s'appelle Scott Hollenbeck, si les registres GTLD ont à l'heure actuelle l'option de demander une modification à leur service RDDS afin d'inclure une caractéristique telle en conformité avec les politiques et les procédures existantes, les registres auront-ils le droit de remettre la mise en œuvre jusqu'à ce qu'il y ait une modification demandée ou alors seront-ils forcés de mettre en œuvre les modifications pour le profil et puis d'apporter des modifications une fois que la demande de modification aura été traitée? Francisco prend la parole. Je pense que c'est une question intéressante et qu'il faudra qu'on la reprenne plus tard. Cyrus prend la parole. Oui, on va vous répondre à la fin de la session, Scott. Stéphanie Perrin prend la parole. Merci. J'appartiens au groupe RDS et j'appartenais au groupe de travail d'experts. Et j'apprécie cette précision que vous ne voulez pas rédiger les politiques. Et Pour ceux parmi nous qui ne venons pas de l'atmosphère du technique ou qui n'appartenons pas au secteur commercial, je demanderai s'il n'est pas obligatoire de mettre en œuvre un RDAP avec cette possibilité d'avoir un accès différencié. Cela n'empêche-t-il pas, en un certain sens, les politiques qui vont être définies d'ici 3 mois dans le PDP que Chuck préside? Donc déjà ça, d'une part. Et puis, j'ai du mal à essayer de comprendre le calendrier de déploiement du RDS, de nouvelles politiques, du WIS détaillé. Il me manque quelques-uns. Hein. Mais dans ce cas-là, je soutiens ce que disait Jim Galvin concernant l'idée d'intégrer toutes ces activités. J'ai vu les présentations, je comprends qu'il y a quelques réunions, je ne sais plus où. Le GAC avait demandé qu'il y ait une feuille de route relative aux différentes activités. J'ai vu la feuille de route, ça ne m'a rien clarifié. Je ne sais pas si elle a été utile pour le reste du monde, mais pour moi, les interdépendances ici sont ceux qui me déroutent. Et si on ne permet pas aux personnes d'appliquer l'accès différencié, on est déjà en train d'établir une politique. Merci. Francisco Arias prend la parole. Merci, Stéphanie. Pour ce qui est de votre première question, vous demandiez des précisions concernant le profil de l'accès différencié, n'est-ce pas? Alors, il devrait y avoir une disposition contractuelle ou une politique qui s'applique à cela pour l'accès différencié. Donc, je pense que s'il y avait une politique, vous ne devriez pas avoir un problème avec cette politique. Stéphanie Perrin au micro. Oui, mais si on ne l'établit pas et que la politique le dit, on aura des problèmes, n'est-ce pas? Il va falloir apporter plein de modifications pour s'y conformer. Francisco Arias prend la parole. Non, je ne dirais pas que ça va vous coûter énormément, mais je ne sais pas. Stéphanie Perrin au micro. Oui, parce que les coûts, en réalité, sont une considération à prendre au moment de rédiger des politiques. Francisco Arias, oui, bien sûr. On tient compte de cela au moment de considérer les politiques et de débattre et de décider et éventuellement d'adopter les politiques. Stéphanie Perrin prend la parole, mais c'est là l'interdépendance de la mise en œuvre de politiques. Si on avance avec cela et que cela augmente les coûts en vertu des politiques, on n'aura plus que 3 mois pour se conformer à une nouvelle politique. Donc je pense que c'est ça la politique, en fait, que vous essayez de le faire travailler un peu plus vite que possible. Francisco prend la parole. Je comprends. Cyrus, pardon, prend la parole. Je pense pas avoir compris ce que vous demandez, Stéphanie. Je sais qu'il y a plein d'activités en cours, en simultané, comme disait Monsieur Galvin. Certainement, il y en a. Et puis, on a des obligations contractuelles et des politiques que l'on adopte et que l'on doit mettre en œuvre, nous, en tant que personnel de l'ICANN. Mais je ne vois pas très bien quelle est l'interdépendance entre toutes ces différentes activités, tous ces différents projets, s'il y a des coûts impliqués dans la mise en œuvre de ces politiques. Comment pourrait-on faire pour que cela ne devienne pas une montagne de politiques qu'il est impossible de mettre en œuvre du point de vue opérationnel? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Stéphanie prend la parole. Oui, non, moi non plus, je n'ai pas la réponse. Mais peut-être que si on ne met pas en œuvre l'accès en couche différencié, potentiel, le coût ne serait pas substantiel. Et donc, on n'aura pas de problème de politique dans ce sens. C'est ça ma question, mais si la non-mise en œuvre de la politique en ce moment nous empêche de la mettre en œuvre à un autre moment, une des parties de politique clés du groupe de RDS aura déjà été délimitée, même avant de commencer. C'est ça que je dis. Cyrus prend la parole. Oui, merci, je comprends. Wendy Seltzer, au micro. Je voudrais partager encore une fois mon avis ou ce que je sens à travers cette non-invitation à l'accès différencié. Vous faites, en fait, vous délimitez une politique à travers la non-mise en œuvre de l'accès différencié. Il y aura des modifications de politique à faire
que beaucoup de parties prenantes défendent au cours des discussions concernant cette modification de politique. Il y a des parties prises des deux côtés, mais les étapes pour la mise en œuvre de ce nouveau protocole vous donnent l'occasion de mettre en œuvre un accès différencié ou un accès uniforme. Et la mise en œuvre, d'ailleurs, invite les développeurs de code à travailler de manière à remettre à plus tard la date butoir pour la rédaction d'une politique, afin que l'on puisse avoir un résultat de politique qui puisse surgir des travaux de ces groupes de travail de politique.
Thank you, Wendy.
Merci, Wendy, dit Cyrus. Robert Harrison, au micro. J'écoute les échanges et il y a une question, une clarification que je veux qu'on me donne. Y a-t-il une interdiction pour qu'un registre mette en place un accès différencié? Je peux, par exemple, mettre en place un protocole. Parce que maintenant, quand on reçoit une requête, tout le monde a la même réponse. Et ça, ce n'est pas un accès différencié. Est-ce que il y aurait un problème si je mets en place un protocole comme ça? Francisco prend la parole. Je pense que vous devez fournir les champs. C'est l'exigence de contrat. Je ne sais pas s'il y a une politique sur l'accès différencié, on ne sait pas ce qu'elle dira. On ne sait pas si cette politique va établir 10 niveaux d'accès différencié, par exemple. Mais je pourrais le mettre en place dans un système, dit l'intervenant. Parce qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place avant. Il peut y avoir des politiques qui vont être obligatoires, par exemple. Et donc, est-ce qu'il faudra recréer des logiciels pour pouvoir mettre en place ces politiques, ou est-ce que ces politiques pourront être mises en place dans les logiciels que l'on possède déjà? Donc, si ces politiques ne nous empêchent pas de mettre en place cet accès différencié dans les logiciels que l'on a déjà, cela serait intéressant d'avoir une clarification là-dessus. Pour savoir, bien sûr, que l'accès différencié ne peut ne pas être mis en place jusqu'à ce qu'une politique soit établie dans ce sens. Merci, dit Cyrus. Y a-t-il d'autres questions avant de continuer? Nous avons moins de 10 minutes. Il nous reste moins de 10 minutes. Ah, pardon, nous avons 45 minutes. Je dois quitter la salle bientôt. Je suis désolée, mais David et Francisco vont continuer avec la présentation. Francisco, s'il vous plaît, si vous pouvez continuer. Merci beaucoup, Cyrus. Le thème suivant a trait à l'intersection entre la mise en place de la politique sur le WIS détaillé et le RDAP. On a dit avant qu'on essayait de simplifier la mise en œuvre. Et c'est ce que l'on essaye de faire ici avec une mise en œuvre de la politique WIS détaillée et la mise en œuvre du RDAP. Puisqu'il y a des similarités entre ces deux politiques, nous essayons de faire une synergie au niveau des efforts de mise en œuvre. D'un côté, du côté de la politique de mise en œuvre du WIS détaillé, nous avons 4 champs qui sont montrés côté bureau d'enregistrement. Il y a et qui ne sont pas communiqués au registre. Selon cette politique de WIS détaillée, au moins 2 de ces champs devront avoir des extensions EPP pour le registre. D'un côté, nous parlons de modifier les résultats côté registre, et d'autre côté, du côté de la du profil RDAP, il y a l'exigence pour les bureaux d'enregistrement de mettre en œuvre un service pour l'enregistrement. Et du côté des bureaux d'enregistrement, ils souhaitent qu'il y ait certains champs qui soient affichés dans les informations qui leur sont envoyées. Du côté des bureaux d'enregistrement, nous avons les bureaux d'enregistrement qui disent nous ne voulons pas mettre en place un service RDAP puisque nous sommes en train de passer à un QIS détaillé. Et bien sûr, il faudrait mettre en place un suivi des deux et qu'il y ait moins d'informations affichées dans le QIS parce qu'il y aura le RDAP. Donc, pour permettre d'avoir accès à ces quatre champs, nous avons deux options ici et nous aimerions écouter vos commentaires. D'un côté, avoir les registres qui offrent un service RDAP et l'on voit les options que vous voyez sur l'écran. Ou bien les registres doivent-ils afficher les quatre champs supplémentaires? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Bobiscu au micro. Je voulais dire que ce n'est pas les seules options. Il y a un groupe d'experts qui ont proposé un système QIS centralisé. Il se pourrait donc que ce QIS centralisé puisse avoir les réponses à toutes les questions. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer. Au niveau du RDAP, par exemple, à cause des barrières juridiques qui peuvent exister entre l'information qui est communiquée entre les registres et les bureaux d'enregistrement, il se pourrait que toutes les informations d'enregistrement dans tous les GTLD puissent passer à un modèle détaillé. Donc, il y a beaucoup d'aspects que nous ne connaissons pas encore. Nous ne pouvons pas faire l'hypothèse que cela sera nécessaire. La politique de QIS détaillé concerne l'affichage de champs de données et non pas la collecte de données. Donc, on ne peut pas exiger aux bureaux d'enregistrement de collecter les données. S'ils n'ont pas ces données, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est soit omettre la réponse dans la réponse QIS ou bien montrer un champ vide. Il n'y a pas de politique là-dessus. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait une politique qui aille à l'encontre de la politique de consensus. Je pense que cela sera résolu très prochainement. Et quand ce sera résolu, il n'y a pas actuellement une obligation de communiquer ces données. Donc, je pense que le problème que vous évoquez n'existe pas parce que ce n'est pas une option en ce moment. Et la question qui se pose, c'est de savoir quand est-ce que le groupe qui travaille sur le PDP va finir son travail. Je sais que ce ne sera pas dans 3 mois, mais pour le moment, ce ne sont que des spéculations. Francisco prend la parole. Pour être clair, nous parlons de la mise en œuvre. Nous parlons de ce que nous pouvons faire avec le QIS détaillé et nous ne parlons pas de ce qui pourrait venir après avec le RDAP. C'est une histoire différente, ce n'est pas ça. Dans le contexte des exigences actuelles que nous avons dans les contrats et en ce qui concerne le QIS détaillé, la politique de QIS détaillé, ce sont les options que nous voyons à l'heure actuelle. Nous n'envisageons pas d'autres options. Mais pour pouvoir garder ces informations qui est affichées actuellement, donc au moins une des deux parties doit montrer ces informations, que ce soit les bureaux d'enregistrement ou les registres. Rubens prend la parole. Ce serait possible si les registres et bureaux d'enregistrement pouvaient partager ces informations. Actuellement, il n'y a pas de politique qui permette ou qui exige cela. Ce qui existe au niveau de la version préliminaire de mise en œuvre ne couvre pas ces questions. Donc cette question ne se pose pas. Francisco prend la parole. Je pense qu'on n'a pas la même interprétation des choses. Rubens, très bien. Peut-être qu'on pourra en parler après. Merci. Jordan Buchanan, je prends la parole à nouveau. Ces deux champs, par rapport à ces deux champs, est-ce qu'il y a une politique qui exige que ces deux champs soient affichés? Francisco prend la parole. Cela figure dans les contrats, pas dans la politique. Jordan prend la parole. Dans les RAA 2013, c'est correct, dit Francisco. Vous voulez dire quelque chose, Christiane? Oui, dans le texte de la politique de Huis détaillé. Jordan prend la parole à nouveau. Donc, en fonction de comment on interprète donc le texte de la politique de Huis détaillé, Rubens a dit qu'il y aurait une option C. Moi, je dirais qu'il y a une option D, à savoir qu'il ne faut pas forcément afficher ces quatre champs ou ces champs dans le RDAP. Joe l'a dit avant moi, la date d'expiration des bureaux d'enregistrement, contrairement à la date d'expiration de registre au bureau d'enregistrement, l'affichage de ces deux informations peut être confus. Je parle uniquement au nom de Google Registry. Je pense que cela pourrait être fait au niveau des bureaux d'enregistrement. Et pour l'information de la revente, je ne suis pas très sûre comment ces informations devraient être affichées. Est-ce que cela est nécessaire ou non? Il se pourrait que l'on pourrait éviter les abus au niveau de ces informations plus facilement. Ce serait plus facile pour les bureaux d'enregistrement d'afficher ces informations. Peut-être qu'il y a un autre moyen d'essayer de préserver ces informations. Je sais que cela figure dans les RAA 2013. Francisco prend la parole. Je suis d'accord par rapport au champ de point de contact en cas d'abus des bureaux d'enregistrement. C'est exactement ce qui... Je sais que cela a une nature différente dans le cadre des discussions que l'on a actuellement. Mais par exemple, ce type de champ ne présente pas ce type de problème. Il y a un texte qui parle de la nécessité d'affichage de ce type de champ. Et si l'on... enlève, cela impliquerait d'enlever ce champ. Je ne pense pas que nous puissions prendre ce type de décision. Mais dans le cadre de la mise en œuvre, nous ne pouvons pas enlever un champ. L'intervenant reprend la parole. Et comment faites-vous pour que ce champ, l'affichage de ce champ soit assuré? Francisco prend la parole. Il y a un texte ou une disposition dans les contrats qui exige cela. L'intervenant prend la parole. Je pense que on pourra continuer cette discussion après. Merci. Maximo Soto prend la parole. J'ai une question. Y a-t-il des initiatives ou des efforts pour mesurer ces données? Parce que ce que je vois, c'est que dans l'avenir, les registres ou les bureaux d'enregistrement vont avoir des problèmes devant les tribunaux avec des clients qui vont avoir des problèmes au niveau de la des données qui ne sont pas cohérentes, etc. Alors, y a-t-il des efforts ou des initiatives pour analyser les différences? Peut-être qu'il y a très peu des domaines où les différences sont mesurées. Peut-être que l'on peut faire quelque chose par rapport à cela. Merci, Maxime, dit Francisco. C'est une très bonne suggestion. Nous n'avons pas mis en œuvre des études par rapport à cela, par rapport à la différence entre ces deux dates d'expiration. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'il est assez fréquent. On a eu des discussions dans la liste de diffusion où certains bureaux d'enregistrement nous expliquaient que dans certains cas, ces différences existaient. Je me souviens qu'une explication était liée à l'auto-renouvellement ou à la période de grâce qui pouvait donner lieu à ce type de différence entre les dates d'expiration. Il y avait des cas spécifiques. Les bureaux d'enregistrement nous ont expliqué comment ces champs étaient utilisés et qui pouvaient donner lieu à des différences. Maxime prend la parole juste pour clarifier. Le problème surgit quand il n'y a pas d'auto-renouvellement. Parce que s'il y a un auto-renouvellement, ça n'a pas d'importance. Mais si cette différence n'est pas liée à cela, cela peut créer des difficultés. Et à ce moment-là, le domaine peut être supprimé et c'est la fin de l'histoire. Et à ce moment-là, le client peut faire en sorte que le bureau d'enregistrement se retrouve dans les tribunaux. Francisco, merci. Je vais répéter, un intervenant qui ne se présente pas prend la parole. Je voulais faire un commentaire par rapport. Je suis Jim Calton de Affilias, pardon. En général, je pense que les changements au niveau des bureaux d'enregistrement doivent être évités, tout simplement. Et donc, un service RDAP au niveau des bureaux d'enregistrement, je pense que cela ne devrait pas être obligatoire. Et donc, suggérer que les bureaux d'enregistrement doivent le mettre en place de manière obligatoire serait une étape de transition qui ajouterait une charge supplémentaire au travail des bureaux d'enregistrement. Jordan prend la parole. C'est deux options. Une option, c'est qu'il faut mettre en place le RDAP. Autre option, c'est de mettre en place un mécanisme EPP. Il n'y a pas moyen pour les bureaux d'enregistrement de mettre en place ces deux options. Merci beaucoup, dit l'autre intervenant. Merci beaucoup de cette intervention. Il ne devrait pas faire cela. C'est une chose complètement différente. Roger Carney, je suis d'accord avec beaucoup de ce qui a été dit avant moi. C'est beaucoup de travail. Je ne pense pas que l'on doive mettre en place cela. Francisco prend la parole. Je ne suis pas très sûre de quoi vous parlez. Les quatre champs, c'est ça? Ne pas demander donc au bureau d'enregistrement de mettre en place les services RDAP, c'est ça? À moins qu'il y ait des nouvelles du côté de la mise en œuvre du quiz détaillé, par exemple. S'il y a d'autres fonctionnalités ou s'il y a des problèmes juridiques au niveau de la donnée, je ne suis pas expert pour parler de cela. L'intervenant reprend la parole. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jordan. Les deux champs, ainsi que le champ de contact en cas d'abus, je pense que ça pourrait être mis en place. En ce qui concerne les dates d'expiration, je pense qu'elles ne devraient pas être montrées ensemble. Il y a plusieurs commentaires qui vont dans ce sens. Il y a d'autres champs qui sont facultatifs. Et donc, il n'y a pas d'obligation de les mettre en place. Francisco prend la parole. Oui, il y a des champs qui sont facultatifs. Et nous nous allions supprimer ce champ dans tous les cas. L'intervenant reprend la parole. Je pense que les gens veulent recréer ça aujourd'hui. Donc si c'est une option, ils ne vont pas l'afficher. Francisco prend la parole. Oui, c'est ce que je disais. Oui. L'intervenant reprend la parole. Beaucoup de bureaux d'enregistrement n'affichent pas cette information. Francisco prend la parole. Oui, cela ne figure pas dans leur contrat. C'est pour cela qu'ils ne l'affichent pas. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps. Le dernier sujet concerne la date d'expiration des bureaux d'enregistrement. Il s'agit d'un cas assez particulier dans les quatre champs que nous avons évoqués. La difficulté qui a été évoquée, c'est que cela peut être confus pour les utilisateurs de voir les deux dates d'expiration ensemble. Il vaudrait mieux de ne pas montrer ces informations du tout. Voilà les informations que l'on voit dans le ROIS détaillé. Les deux options que nous avons vues jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui a été suggéré dans la liste de diffusion. Peut-être que l'on montre les deux dates d'expiration, mais que l'on inclut un lien, comme l'on fait dans la politique AWIP, qui explique à quoi correspond chacune des dates d'expiration. Cela pourrait atténuer ou éviter la confusion par rapport à ces deux champs qui ont des dates d'expiration. Une autre option est que les bureaux d'enregistrement proposent un RDAP pour les registres détaillés et résumés. De cette façon, on montrerait la date d'expiration du registre et la date et le RDDS pour la date d'expiration des bureaux d'enregistrement. Je n'ai pas eu le temps de l'inclure dans mes diapos, mais ce matin, quelqu'un dans une réunion, je ne me souviens plus, il y a eu une réunion où quelqu'un a suggéré qu'une solution potentielle consisterait à, au cas où on aurait un accès différencié ou qu'on aurait une politique sur l'accès différencié, dans ce cas-là, le champ affiché dépendrait de qui pose ou qui envoie la requête. Donc, c'est une possibilité à laquelle on peut réfléchir. Mais pour le moment, il n'y a pas de solution immédiate. Jordan prend la parole. On va voir si on peut essayer cela. Jordan McCanning prend la parole. Si j'ai bien compris, le problème ici, c'est-à-dire que les informations montré par les registres reflète la relation entre le registre et le bureau d'enregistrement. Donc il y a une fenêtre de 45 jours et dans cette fenêtre de temps, le renouvellement peut avoir eu lieu ou pas selon de quel côté on le voit. Alors il semblerait que la raison pour laquelle on veut montrer ces dates, c'est parce que vous pouvez penser qu'un bureau d'enregistrement qui n'a pas regardé le quiz pour comprendre si le domaine a expiré ou pas. Je ne suis pas très sûre qu'il y ait beaucoup de titulaires qui utilisent le quiz, savent si le domaine a expiré ou pas. Et si ce n'est pas le cas, je pense que c'est compliqué. Ce que je suggère, c'est que l'on fasse une enquête auprès des bureaux d'enregistrement en leur demandant si leur domaine a expiré ou pas et voir quelle est leur réponse. Francisco, merci pour cette suggestion. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire? Il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des commentaires à distance? Très bien. Nous allons donc clore cette séance. Merci à tous de vos contributions. Bonne continuation.